score, c'est vous qui votez. Vous écoutez l'émission entre 9 et 10 heures. Vous classez par ordre de préférence les 4 reportages présentés par la Belgique, le Canada, la France et la Suisse. Et vous communiquez votre vote à l'issue de l'émission. Pour faire partie du jury, rendez-vous dès à présent sur notre site franceinter.fr. Et bienvenue au club.
France Bleu vous dévoile tous ses talents vendredi 23 novembre à 20h en direct de l'Axone de Montbéliard.
Une soirée inoubliable avec
Pascal Obispo, Irma,
Circus, les Stentors,
Garou et Benabar. Les talents France Bleu en direct le 23 novembre à 20h.
France Bleu, une radio du groupe Radio France.
France Inter.
La voix est libre.
Là-bas, si j'y suis avec Daniel Mermet et son répondeur, c'est maintenant.
Le préavis. Il en avait assez de faire des cauchemars, d'avoir ses nuits hantées par des êtres bizarres. Alors, il déposa pour obtenir une trêve, en se glissant sous les draps, un préavis de rêve.
Il me fait marrer, Fillon. Il vient de découvrir, à l'occasion de l'élection du leader de l'UMP, il vient de découvrir qu'il y avait une façon immorale et politicienne de faire de la politique à l'UMP. Autrement dit, nauséabonde. Oh, c'est terrible, c'est donc ça l'UMP. Il a l'air d'oublier qu'il a été pendant 5 ans le premier ministre de Nicolas Sarkozy qui a initié cette méthode, revendiquée maintenant par Jean-François Copé. C'est-à-dire qui consiste à faire remonter les miasmes de la société, quoi, pour essayer de gagner des voix. Alors je trouve ça extraordinaire qu'ils s'en aperçoivent que maintenant.
C'est un message pour les intégristes. S'ils ont peur que le mariage homosexuel soit à risque de pédophilie, qu'ils réclament déjà le mariage des prêtres. On évitera les cas qu'ils redoutent.
Je suis en train d'écouter une émission là sur France Inter avec Notre-Dame-des-Landes. C'est quand même incroyable que les opposants sont critiqués à ce point-là en disant que c'est qu'une minorité de gens, c'est des anarchistes venus de loin. Moi, je suis bretonne, je suis actuellement dans le sud. Je ne me sens pas du tout anarchiste parce que je vais défendre mon petit bout de bocage à Notre-Dame-des-Landes. Moi, je suis née à côté. Un jour, mon grand-père nous a dit « Il n'y aura plus d'agriculteurs dans le secteur parce que tous ces riches veulent prendre nos terres. » Et à partir du moment où on les défend, on devient des anarchistes. Mais il faudrait peut-être qu'ils révisent leur histoire de France. Les paysans se sont toujours défendus avec des faux. Et bien, s'il faut les prendre, on les prendra.
Alors, s'il y a une chose dont je suis absolument sûr que vous ne savez pas, c'est que depuis hier, en France, il y a une grève dans une centrale nucléaire, dans la centrale nucléaire de Cattenom, en Lorraine, et la grève est suivie à 100%. Par le personnel hors cadre. La raison de cette grève, c'est toujours la même chose, les conditions de travail qui se dégradent, la peur au ventre et visiblement une sanction pour un salarié qui a porté le chapeau pour tout le monde. Donc il est intéressant de suivre ce qui se fait, ce qui se dit, la CGT est sur le coup et pour une fois, visiblement, elle est bien inspirée. Donc grève dans la centrale nucléaire de Cattenom, à suivre.
Bah, j'appelais juste pour dire merci, vraiment un grand merci pour cette émission-là sur André Gorz, c'était super quoi, ça fait un bien fou d'entendre des choses comme ça. Toute la réflexion sur du travail, sur le fait qu'on est complètement dépris de notre capacité à investir nos boulots comme on souhaite, tout ce qui est de l'ordre de la mise en procédure, la standardisation, enfin c'est des choses qui font écho très fort chez moi. Moi j'ai 32 ans, pas d'identité sociale liée au travail puisque j'ai pas de travail. J'en avais un qui me plaisait beaucoup, qui était l'accompagnement scolaire d'enfants handicapés. Mais c'est pas reconnu comme un travail à part entière. Le choix des classes dirigeantes, ça a été plutôt d'en faire un job dans lequel on n'a pas le droit de s'inscrire ni de rester. Et puis, enfin voilà, d'entendre André Gorz, ça m'a fait un bien fou, c'est ce que je voulais dire, quoi. Bonne journée à tout le monde.
Mmh. Et ben on continue. Ah ah, vous entendez le gros, ouais. Merci pour tous ces messages, y compris celui de ce charmant pigeon. On continue aujourd'hui avec André Gorz. le cinquième anniversaire de la mort d'André Gorce, vous avez peut-être entendu, a donné lieu à des célébrations, à des manifestations, et c'est très bien parce que André Gorce est sans doute un de nos philosophes, penseurs, le plus utile aujourd'hui. On a l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, on voit que le gaz de schiste qu'on avait jeté par la porte revient par la fenêtre. Et puis le problème des écologistes au gouvernement, etc. Tout ça nous ramène à l'écologie politique. Aussi, nous a semblé utile de revenir vers André Gorce, qui est l'un des, sinon l'instigateur de l'écologie politique. Hier, une première partie, et puis aujourd'hui, on va aller plus loin avec lui. Auparavant, alors, dans le domaine de l'écologie, il y a un bouquin, je ne sais pas si vous le trouverez facilement, mais il faut absolument que vous le trouviez en tout cas. C'est un bouquin sur Fournier. Fournier, ça ne dit sans doute pas grand-chose aux plus jeunes générations. C'était un précurseur, lui, de l'écologie. Il a été un dessinateur absolument formidable. Vous pouvez trouver un bouquin qui lui est consacré de dessins et de textes dans la collection Les Cahiers Dessinés Documents. Et il était un des piliers de La Gueule Ouverte. C'est pour lui que ce journal avait été créé, le journal qui vous annonce la fin du monde, par l'équipe à l'époque de Rakiri et de Charlie Hebdo. Donc Fournier, ne pas manquer. Et puis, une chose à dire au sujet de ce qui se passe à Gaza. Hier, ou avant-hier plutôt, je vous citais la phrase du ministre de l'Intérieur israélien, Eli Yishai, à propos de Gaza. C'était relaté dans le quotidien Le Haaretz, qui disait « Le but de cette opération est de renvoyer Gaza au Moyen-Âge, alors seulement nous serons tranquilles pour 40 ans ». Fin de citation. Ben, je crois qu'il a été battu par Gilad Sharon, qui est le fils d'Ariel Sharon, et qui, dans un entretien dans le Jerusalem Post, dit « Nous devons raser des quartiers entiers à Gaza, raser tout Gaza. Les Américains n'ont pas arrêté avec Hiroshima, les Japonais ne se rendaient pas assez vite, alors ils ont aussi frappé Nagasaki ». Fin de citation. Voilà, pas de commentaire à faire sur des déclarations comme celle-ci. On parlera de ça, je pense, plus précisément dans les jours à venir. Pour l'instant, donc, André Gorce, un penseur pour le 21e siècle. On retrouve Christophe Fourel, qui est l'auteur de ce livre sur autour d'André Gorce, jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, c'est Kader de Mont-Soleil-Mines. Un petit message pour dire que le jeudi 22 novembre, l'ensemble des salariés de l'AFPA, l'association pour la formation professionnelle des adultes, sera en grève. Une délégation va monter à Paris pour y rencontrer le Premier ministre. L'objectif est simple. Pour nous, c'est le gouvernement qui détient la clé pour que l'AFPA soit l'opérateur de la formation qualifiante des demandeurs d'emploi, maintenant en titre professionnel. Il faut absolument que l'État s'engage financièrement et surtout immédiatement. En décidant de rien faire, le gouvernement se rendrait coupable de la fin de la formation qualifiante des demandeurs d'emploi.
Salut Daniel, salut les AMG. Une petite réaction au propos du sénateur Europe Écologie Les Verts Renaud Dantec, interviewé par Antoine Chao dans l'émission de lundi sur Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, je vis et je travaille à Stuttgart depuis 5 ans et je suis très près de cette contestation. Que monsieur le sénateur a oublié de dire, c'est que les opposants au projet, à cette nouvelle gare traversante, ont perdu. Ils ont été désavoués sévèrement dans les urnes en récoltant seulement 40% des suffrages. Ce qui s'est passé, c'est que les débats contradictoires retransmis en direct à la télévision, à la radio et sur Internet, au nombre de 8, n'ont pas du tout tourné à leur avantage. Et l'autre raison, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment fait campagne à l'extérieur des grandes villes, ce qui leur a été fatal parce que le Baden-Württemberg est noir, profond, conservateur, et ils n'ont pas voté pour eux. Donc, amis opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, faites très attention à cette stratégie du débat public contradictoire, suivi d'un référendum. Car un débat public contradictoire, ça demande une très grosse préparation, une préparation minutieuse, et ça nécessite d'avoir des gens rompus à la joute verbale pendant de longues heures. N'oubliez pas non plus que vos adversaires ne resteront pas les bras croisés en vous regardant, et les sections locales du PS, de l'UMP et des communistes auront une bien meilleure force de frappe que vous. Donc ce que propose le sénateur Dantec n'est pas une mauvaise stratégie, mais c'est une solution qui demande beaucoup de discipline et de ressources. Gardez espoir, restez créatifs et continuez la lutte. Un auditeur breton expatrié au pays des cochons et des jobs à 1 euro de l'heure. Ciao.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis, avec Christophe Fourel, André Gorce, un penseur pour le 21e siècle.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors Christophe Fourel, on se retrouve aujourd'hui avec vous et André Gorce, et autour d'un entretien qu'il a donné en 1991 à France Culture, à notre consoeur Marie-France Hazard sur France Culture. Et là, on va aborder la suite de son parcours et la suite de son œuvre et la suite de sa pensée. Inutile de dire que en l'espace d'une heure, même une heure de là-bas, si j'y suis, on n'arrivera pas à épuiser son travail, mais on espère évidemment donner aux AMG et aux auditeurs en général l'envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Alors son œuvre, elle est quand même assez compliquée parce qu'il est synonyme de l'écologie politique, mais il a un parcours quand même assez riche qui commence avec l'existentialisme, il devient un ami de Jean-Paul Sartre, il travaille longtemps à la revue Les Temps modernes, après il va rompre avec Sartre, j'y vais à grands pas là, hein. Il va rompre ou du moins se séparer un peu de Sartre, et puis au début des années 70, il va donc est un des cofondateurs ou un des grands penseurs, architectes, comme on voudra, vous allez me dire ce que vous en pensez, de l'écologie politique. Comment vous le présenteriez? Comment vous avez l'habitude de le présenter? Parce que vous avez travaillé beaucoup avec Gorce, vous l'avez bien connu, vous travaillez sur lui. Comment vous avez l'habitude de le présenter en quelques mots?
Alors, je crois que les adjectifs que vous avez utilisés sont assez justes. Je crois d'abord que c'est un philosophe autodidacte, et qui, effectivement, est un philosophe du sens à notre existence, du sens de notre société, dans la façon dont elle se construit. Et c'est effectivement quelqu'un qui est un des pères spirituels, pourrait-on dire, de l'écologie politique. Même si, comme on a pu le dire déjà dans la séance précédente, il n'a pas traité directement des problèmes écologiques comme l'effet de serre ou les problèmes de la biodiversité dans son œuvre. Il n'empêche qu'il a beaucoup inspiré les écologistes dans les années 70. Il est venu, il le disait lui-même comme ceci, il est venu à l'écologie politique par la critique de la société de consommation auquel il s'était attaqué, si vous le voulez bien, dès le début des années 60. Et c'est vrai, vous avez raison, André Gorce est un auteur qui fait référence, qui est subversif, puisque André Gorce, sous son autre pseudonyme, on y reviendra certainement, Michel Bosquet, quand il était journaliste au Nouvel Observateur, a beaucoup traité des questions d'écologie politique et également du nucléaire et de la dangerosité de ce mode de production d'énergie, et dont on voit bien aujourd'hui, bah, finalement, que à certains égards, on peut se dire qu'André Gorce n'avait sans doute pas tort.
Alors, on dit André Gorce, on a évoqué ses noms multiples, Gerhard Hirsch, Gerhard Horst, c'était ses noms, on a expliqué ça. Vous avez évoqué son pseudo de Michel Bosquet, son nom de journaliste, à l'Express, puis au Nouvel Observateur, qui n'étaient pas forcément les mêmes journaux à l'époque où il y travaillait qu'aujourd'hui, soit dit en passant. Mais il a quand même une histoire d'identité. Et on a dit anticapitalisme, on va parler du communisme tel qu'il le définissait. Et alors, il y a un mot qui a disparu du langage, je trouve, c'est le mot « masse ». Il y a un mot qui s'employait beaucoup dans les années 60, 70, c'était les masses populaires, même les masses médias, on dit les médias maintenant, on a enlevé masse. Et c'est un mot qu'on trouvait facilement dans les discours révolutionnaires chez les progressistes, et ça voulait dire un mot qui s'opposait à l'idée d'individu. L'individu, c'est pas bien, les masses, c'est bien. Et individu, ça fait égoïsme, ça fait chacun pour soi. Or, Gorce rejetait cette opposition-là. Pour lui, l'émancipation collective était liée à l'épanouissement individuel. Il tenait beaucoup à cette idée-là de l'épanouissement individuel. Il a beaucoup travaillé sur la personne, sur sa propre personne, sur sa propre identité. En même temps, évidemment, qu'il aspirait, comme nous tous, à l'émancipation collective. Voilà comment il expliquait son nom, comment il expliquait finalement pourquoi il s'appelait André Gorce.
Quand j'étais à l'Express, j'avais élaboré une méthode d'autocompréhension et de remaniement de vous-même, qui, à partir d'un certain nombre de questions concernant votre situation de départ, les possibilités qu'elle impliquait, votre choix, ce que j'appelais le choix originel, etc., etc. Donc, en posant ces questions, je pensais que une personne pouvait se remanier et changer la façon dont elle était fabriquée, structurée, conditionnée au départ. Je me suis lancé dans l'application de la méthode à moi-même. Et c'était donc le traître, qui était, si vous voulez, mon auto-analyse, non pas une analyse freudienne, mais ce que Sartre avait appelé une analyse existentielle. Bien sûr que ça se terminait, et même que ça comportait tout au long des considérations assez subversives concernant la société, la bourgeoisie, l'oppression, l'exploitation, l'aliénation du monde, le fait que la plupart des gens vivent dans un monde qui n'est pas le leur, mais celui des autres, c'est-à-dire des dominants. Toutes ces choses, si je l'ai publié sous mon nom, empêchait ma naturalisation que j'avais demandée, française. Ouais. Parce que le régime, à l'époque, était férocement, pas seulement anticommuniste, anti-gauche. C'est pas qu'il y avait des structures clandestines où on arrêtait tout ce qui fleurait vaguement, plus ou moins vaguement la gauche, pour les arrêter en une nuit, en cas de danger pour l'ordre établi. Alors c'était dans les années 50. J'ai choisi le nom de Gorz, qui a aussi des raisons historiques, parce que Gorz est une ville qui s'appelle Gorz en réalité, c'est-à-dire qu'avec un tréma sur le haut, un umlaut sur le haut, en Istrie, qui n'a jamais su à qui elle appartenait, de quelle était son identité. Elle s'appelle Gorizia pour les Italiens, Gorica pour les Slovènes, et Gorz pour les germanophones, c'est-à-dire les Autrichiens. Et je connaissais cette ville parce que mon père m'avait fait cadeau d'une paire de jumelles de l'armée austro-hongroise sur laquelle il avait simplement écrit « Gorz ». Et cherchant un nom qui me pouvait me convenir et qui avait vaguement la même assonance que le mien d'origine, j'ai choisi le nom de cette paire de jumelles. Et je n'écris que sous le nom de Gorz.
Voilà, André Gorz. Pourquoi André Gorz s'appelait André Gorz ? Alors, c'est un philosophe de l'écologie politique, c'était un journaliste, c'est un homme qui se présente avec un discours rationnel, il nous fait partager les fruits de ses réflexions, de l'esprit, de la raison, etc. Mais enfin, tout l'aspect sensible, obscur, inconscient de sa personne, de son parcours et de ce qu'il dit de lui-même est à l'origine aussi de son œuvre et de son travail. Il dira, on l'entendra un peu plus loin dans un entretien de 2006, lors de la publication de cette fameuse lettre à D, la lettre qu'il adresse à sa femme un an avant leur suicide commun. Ils se suicideront ensemble, ils disparaîtront de cette façon. Il dira, en hommage à sa femme, elle m'a fait surmonter le refus d'exister. Donc, dans cette histoire d'identité, il y a aussi une histoire d'existence. qu'on retrouve chez Sartre dans l'existentialisme, etc., dans la nausée, qui est quand même qu'est-ce que je fais là, quoi ? Qu'est-ce que je fais là ? À quoi je sers ? Qu'est-ce qui me tient ? Qu'est-ce qui fait que je suis debout, etc. Il fera comme Sartre, il se consacrera à l'engagement politique, à la réflexion, à la philosophie. Il rejoindra les grands courants des pensées progressistes, disons, pour simplifier. Mais enfin, il y a quand même, au départ, et tout le long de sa vie, et jusqu'au terme de cette vie même, qui se finit, comme je viens de le dire, quelque chose de très intime et de très personnel qui apparaît dans cette considération sur l'enfance.
Toute personne a commencé par être un enfant. Toute personne a commencé par être un enfant, ce qui veut dire que les critères de jugement, la structuration de sa personne qui va la caractériser dans son âge adulte, lui a été imposée à une époque où il ne pouvait pas se défendre contre elle. Et qu'il a vécu sa socialisation, comme on dit, sans dire son éducation, il l'a toujours vécu comme une violence et un arbitraire qui lui était imposé. Il y a toujours une réserve d'insoumission, de rébellion, de contestation dans toute personne. Personne ne peut s'identifier avec son être social, totalement. Et c'est cet écart entre le vécu personnel et l'image de soi-même que la culture, que la société vous oblige d'assumer, c'est cet écart qui fait la créativité artistique, culturelle, philosophique d'une personne. Si cet écart ne se donne pas, ou n'a pas la possibilité de se donner les moyens de son expression, c'est-à-dire d'une contestation qui est la liberté même de se remanier et de se redonner une existence que l'on ne tient que de soi-même, alors, évidemment, vous tombez dans le conformisme et l'utilitarisme le plus plat, et vous n'avez que des individus qui sont à peu près pareils les uns aux autres. Ce qui est l'idéal, en un sens l'idéal non dit, d'une société de consommation, c'est de produire des gens qui se reconnaissent dans l'image d'eux-mêmes qu'un produit est censé leur refléter, et qui s'en satisfont.
André Gorz, en 1991, sur France Culture, c'est quand même assez radical, ce qui est dit là.
Oui, c'est radical et en même temps, je crois qu'on est au cœur de ce qui a été le matériau qui a permis l'élaboration de son œuvre. Cette idée de tenter de se remanier, c'est-à-dire qui a été effectivement tout l'effort qu'il a fait au travers le livre qui s'appelle « Le traître », cette idée qu'en partant de l'histoire telle qu'elle nous a fabriquée, que ce soit l'enfance ou le lieu de sa naissance et du moment de l'histoire avec un grand H dans lequel effectivement on est venu au monde, de savoir s'il était possible de procéder à un remaniement complet. Dans Le Traître, il tente cet exercice-là. Puis, à la fin, il s'aperçoit que ce remaniement complet n'est finalement pas possible, mais en même temps, il pointe le fait que la prise de conscience de qui on est et la façon dont on peut en tirer parti et dont chaque sujet, en faisant ses choix, peut en tirer parti, est une très bonne façon pour, comment dire, exprimer sa créativité, comme il le dit lui-même à l'instant, parce que justement, dans la créativité, c'est le moment où on est le plus soi-même. Et par là même, et la fin de l'extrait qu'on vient d'entendre est assez révélateur là-dessus, il commence à laisser entendre que notre société, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, réduit de plus en plus les hommes à des états de marchandises. Aujourd'hui, les hommes sont contraints de se vendre, finalement, pour survivre dans le cadre d'un contrat de travail dont on sait qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus précaires. Et donc, cette soumission à cette logique économique fait que les hommes sont un peu réduits à l'état de marchandises et que quand on est réduit à l'état de marchandises, pour Gorz, on ne peut rêver qu'à des marchandises et donc participer par là même à finalement la logique de la société de consommation.
On continue avec André Gorz, sa voix, son œuvre, avec vous Christophe Fourel. On va voir comment il a été découvert relativement par le public français, c'est à la fin de sa vie, avec cette lettre à D, une sorte de testament amoureux, adressé à son épouse. Et tout d'un coup, cet homme, évidemment, de raison, de réflexion, de retenue, à la fin, adresse à son amie et femme et amour une lettre absolument magnifique qui va frapper les imaginations par l'émotion très profonde, ce qui va permettre d'ouvrir pour beaucoup l'accès à l'ensemble de son œuvre. C'est un texte court et absolument bouleversant, Lettre à D, Histoire d'un amour. C'est une ode à son épouse, Dorine. Tu vas avoir 82 ans, tu as rapetissé de 6 cm, tu ne pèses que 45 kg et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais.
C'est un livre par accident. C'était une lettre, c'était un hommage que je voulais faire pour le 82e anniversaire de D. Et c'est devenu assez long. Et j'ai dit, on va essayer de le publier. Elle a dit, tu ne me feras pas ça, ça m'embarrasserait beaucoup. Et je lui ai dit, mais ne t'en fais pas. Je veux que ce rôle déterminant que tu as joué dans tout ce que j'ai fait et vécu, qu'il en reste une trace. Parce que pour le moment, il n'en restait pas. Ce qu'il fallait, c'est la libération, non plus de l'esprit, mais de l'émotion. C'est qu'il fallait que je fasse sentir à D ce qu'elle avait été, ce qu'elle était pour moi. Ça, sinon, on ne peut pas écrire une lettre autrement. Et c'est ça qui fait qu'il émerge de temps en temps des morceaux qui sont émouvants.
Est-ce que vous avez appris quelque chose en l'écrivant ?
Si. J'ai appris à me laisser aller davantage. J'ai appris à dire des choses que j'avais jamais dites jusque-là. Mais oui, c'est ça de notre histoire. C'est-à-dire qu'elle m'a fait surmonter le refus d'exister. Donc, j'existais quand je lui écrivais ça. Et c'était un choix de montrer qu'elle m'avait fait exister et que j'existais pour elle. Mettons que c'est l'un des rares moments où je m'assume en tant qu'être sensible et sujet. Je m'assume non pas dans philosophiquement, mais émotionnellement.
C'est un texte dont vous avez parlé à D quand vous l'avez commencé ?
Absolument pas. Non. Elle voyait que j'écrivais quelque chose, je lui disais que ça nous concernait tous les deux, mais je n'ai pas dit ce que c'était.
Donc vous saviez qu'il y avait ce texte qui était en train de s'écrire, sans savoir très bien ce que c'était ?
Mais comme elle est toujours en train d'écrire quelque chose, pour moi c'était dans la norme habituelle.
Mais vous n'en parlez pas, en général, de ce qu'il écrit, ensemble ?
Avant qu'il a bien avancé dans ses écrits, non.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé en le lisant, si c'est une question à laquelle on peut répondre ?
C'est difficile de répondre. J'étais bien sûr très touchée.
Et vous avez été surprise ?
Oui.
Voilà, Dorine Gors et André Gors répondant à Béatrice Leca de France Culture, le 20 décembre 2006. Et quelques mois plus tard, le 24 septembre 2007, il se suicide à l'âge de 84 ans, André Gors, en même temps que son épouse Dorine. Voilà, c'est leur geste final.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? when you open it to speak. Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
On continue avec André Corse, on revient en arrière. Dans sa vie, dans sa pensée, dans ses considérations, avec vous, Christophe Fourel. Il était journaliste, il ne faut pas l'oublier, sous le nom de Michel Bosquet, et il a beaucoup écrit sur l'écologie dès début des années 70, dans ce hebdomadaire qui s'appelait Le Sauvage. C'est un hebdomadaire ?
C'était un mensuel. Voilà. Il y avait, au début des années 70, il y avait deux journaux, disons, qui se réclamaient de cette mouvance naissante de l'écologie. C'était effectivement Le Sauvage et puis La Gueule Ouverte, à laquelle il a un petit peu donné des contributions également. Mais il a été effectivement très tôt, dès la naissance du mouvement écologiste. Donc ensuite, André Gorce, Michel Bosquet, a beaucoup œuvré pour développer la pensée écologiste, l'écologie politique en France.
Alors, si vous voulez, j'ai été un des premiers à répercuter les thèmes écologiques dans la grande presse. Mais je n'ai pas été celui qui a inventé le mouvement et l'orientation écologiste. En France, les premiers ont été les gens qui ont fait la marche sur Fessenheim en 1969 ou 70. Mais... Bref, il y avait une prise de conscience mondiale à partir de 72 du fait que non seulement la croissance ne peut pas continuer... indéfiniment, c'est-à-dire la croissance asymptotique, vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement. Dans ce qu'il y a d'écologie scientifique, personne ne vous dit plus que l'on peut indéfiniment étendre les possibilités d'exploitation de ressources qui sont limitées. Ce qui s'impose à nous, c'est une régression global de la consommation matérielle.
Il avait comme définition, disons, de l'écologie, d'abord le souci du milieu de vie dans lequel les gens évoluent et qui est le déterminant de la qualité de la vie et de la qualité de la civilisation. Mais pour lui, je crois que avant tout, le mouvement écologiste était un mouvement de protestation, en fait, contre, je dirais, la confiscation de l'espace public par les méga-industries. Voilà, mais lui, c'était lutter contre la domination, lutter contre la destruction du bien commun par des puissances privées, finalement, auxquelles il essayait de faire prendre conscience et donner corps à ce mouvement, puisque dans son esprit, puisqu'il était arrivé à l'écologie par la critique de la consommation, le consommateur individualisé est fondamentalement le contraire du citoyen qui se sent responsable du bien commun.
Le projet de société écologique est un projet qui cherche à subordonner, à soumettre la vie, surtout la vie économique, et le développement économique à des critères qui ne sont pas économiques. À partir du moment où les critères d'évaluation de ce que doit être et doivent être les buts d'une activité économique et sociale, ces critères d'évaluation sont eux-mêmes soumis à l'évaluation économique, sous forme de la question, la culture, est-ce que c'est rentable ? Ben, vous renoncez à tout critère d'évaluation. Vous n'avez plus comme critère d'évaluation suprême, unique et suprême, que la question de savoir, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce que ça permet l'expansion et la santé de l'entreprise, ou est-ce que ça ne la permet pas ? Donc, vous n'avez aucune orientation. Le seul but dans la vie et le seul critère de réussite, c'est gagner de l'argent, croître. Et nous en sommes là, c'est-à-dire que nous avons perdu tout repère et tout sens du haut et du bas, du bien et du mal. Et que finalement, la question qui se pose à nous, c'est en vertu de quoi est-ce que, vu que l'évaluation économique est le critère suprême, en vertu de quoi est-ce que nous n'abolissons pas le repos dominical, puisque ça permet de rentabiliser beaucoup mieux les installations, ce qui est d'ailleurs en train de se faire. Et si vous allez par là, où est-ce que vous voulez vous arrêter? Ne serait-il pas plus rentable de laisser mourir les gens à partir d'un certain âge, puisqu'ils ne sont plus productifs?
André Gors, en 1991, il faut rappeler que André Gors est mort en 2007. Là, on va écouter un autre document, toujours provenant de France Culture. C'était en 1979 et il débattait avec Paul Thibault, directeur de la revue Esprit, sur les outils. C'est-à-dire ce moment où les outils, qui doivent être évidemment à notre service, nous dominent. Et c'est le marteau sans maître. C'est la métaphore du marteau sans maître, le moment où le marteau échappe de la main de l'homme et fait ce qu'il veut. André Gors, 1979.
Passé un certain seuil d'industrialisation de nos moyens de vie, notre autonomie, notre sphère d'autonomie individuelle, au lieu de s'agrandir, est détruite. Je peux formuler ça autrement. Je dirais que, passé un certain point, les outils par lesquels l'homme prétend dominer la nature se retournent contre lui comme le dominant lui-même. C'est-à-dire qu'il est dominé par les outils de sa domination sur la nature. C'est assez évident si l'on prend les grandes concentrations industrielles, ou si l'on prend, par exemple, les centrales nucléaires, dont, comme d'ailleurs dans l'industrie du siècle dernier, le fonctionnement ne peut être assuré que par une militarisation du travail comportant une hiérarchie et une discipline extrêmement rigide. Donc nous avons bien là un effet de domination de l'outil qui se retourne sur l'homme. Et qui, bien sûr, est un outil entre les mains de quelqu'un ou de quelque chose, d'un sujet toujours absent, ce sujet étant le processus d'accumulation que moi j'appelle capitaliste. Nous voyons aujourd'hui techniquement, grâce à la microélectronique, s'ouvrir la possibilité d'une réduction de la taille des outils, de la maîtrise de l'outil par les gens, d'un accroissement de la production de valeur d'usage avec diminution de la durée du travail, toutes choses qui sont la condition d'une société détendue, où les rapports marchands ne dominent pas, où l'épanouissement des individus peut être le but de toute activité. Bref, toutes choses qui sont la définition même de ce que l'on appelle le communisme, historiquement tel qu'il a été défini, et en même temps, nous avons le rejet précisément de cette référence au communisme parce que c'est un mot qui est démonétisé à cause de l'usage qu'on en a fait et une idéologie qui nous présente la libération de notre temps grâce à l'automatisation, l'extension possible de notre sphère d'autonomie grâce à la miniaturisation des outils. On nous présente tout cela comme des dangers pour l'emploi. Au lieu de dire que notre travail est devenu superflu et que nous devenons libres, on nous dit que le travail devient rare et que nous sommes menacés par le chômage. Donc nous nous trouvons au seuil d'un bouleversement possible de la logique de production que tout le monde ressent fortement, en même temps que d'une sorte de censure sur la possibilité, la réalité de la possibilité de ce bouleversement. À mon avis, le seul après-capitalisme qui soit imaginable, c'est ce que, à l'époque de Marx, on appelait le communisme, qui n'a pas grand-chose à voir, effectivement, ni avec ce que représentent les partis communistes, ni avec ce que représentent les régimes qui s'en réclament. Et ce communisme, tel qu'on l'entendait au siècle dernier, est une civilisation où le temps libre l'emporte sur le temps de travail, où la production sociale est subordonnée aux besoins et aux désirs des individus et particulièrement d'individus riches entièrement développés, individualité riche entièrement développée, ce qui n'a jamais été le cas, où la coopération volontaire et l'association prennent la place des contraintes et des nécessités extérieures, et où la production est dégagée de la logique de l'accumulation. Rien de tout cela nous est proposé. Et en dehors de cela, précisément, il n'y a que continuation de l'accumulation sous d'autres formes, au besoin par destruction de ce qui a été accumulé précédemment. Et en particulier, le socialisme, même le socialisme tel que l'entendent les socialistes classiques en France, est une continuation du capitalisme sous d'autres formes, c'est-à-dire un autre avatar de l'accumulation.
André Gorz, en 1979, en écoutant, on se dit, mais c'est vrai quand même, toutes ces avancées technologiques formidables auraient dû nous libérer. On peut se dire que tous ceux qui travaillent à l'élaboration de ces technologies, qui travaillent à tous les niveaux, que ce soit l'ingénieur jusqu'à celui qui emboîte les fils dans les prises, tous se disent, bah, c'est formidable, ça nous libère tout ça. Et on a l'impression que c'est le sens de notre modernité, du progrès, etc. Or, en écoutant Gorz, on se dit, mais c'est vrai, c'est le contraire qui s'est produit. Ça a entraîné une régression, puisque en réduisant la quantité de travail, on a créé du chômage, et donc c'est l'aliénation et les misères des temps actuels.
Oui, je crois que vous avez raison. Dans cet extrait-là, qui est tout à fait intéressant, de 79, on reconnaît bien Gorz, le théoricien de l'aliénation, dans une filiation tout à fait marxiste et qu'il assume parfaitement et qui est, de ce point de vue-là, tout à fait intéressant. Marx était, de tous les philosophes hégéliens, celui qui disait que la philosophie, ça servait d'abord à réaliser le socialisme. Et d'une certaine manière, on retrouve bien Gorz s'inscrire dans cette logique-là. Ce qui est intéressant dans cet extrait où il parle du communisme comme utopie, on voit bien à quel point André Gorz, si vous voulez parler de l'utopie, c'est toujours un petit peu difficile parce que l'utopie est à la fois ce qui fait changer la réalité et ce qui est incapable de la changer. Donc c'est toujours une espèce de ligne de crête. Il y a une mauvaise utopie, une bonne utopie. La mauvaise utopie, c'est celle qui vise à la perfection, une société sans drame, totalement harmonieuse. Et donc là, c'est le meilleur des mondes, si on peut dire. Et puis vous avez la bonne utopie, si je puis dire, et c'est celle qui transparaît, je trouve, dans les propos d'André Gorz à l'instant, c'est de nous dire ce qui n'est pas possible dans l'immédiat, mais qui pourrait devenir possible. Et là, on est plus dans la logique, non pas du meilleur des mondes, mais d'un monde meilleur. Et il est plutôt dans cette logique-là de l'utopie quand il parle effectivement de la possibilité que nous offre aujourd'hui la technique pour nous libérer du travail, parce que Gorz considérait que le temps libéré est une richesse qui a une valeur existentielle. Et on voit bien qu'aujourd'hui, malheureusement, on est incapable de rentrer dans une réflexion de cet ordre-là.
On a toujours imaginé la révolution comme un bouleversement instantané où une société est détruite et une autre mise à sa place. Nous savons que c'est jamais comme ça que ça se passe. S'il y a un processus révolutionnaire brusque, la société mise en place portera en elle beaucoup des perversions de celles qu'elle a remplacées. Si la destruction des pouvoirs de domination ne se font pas dans la société qui est destinée à mourir, celle qui la remplacera, après destruction violente de cette société-ci, ne voudra pas mieux. On a dit dans le passé que la classe ouvrière, et Marx le croyait, s'approprierait le pouvoir bien avant que naisse le pouvoir d'État, et que le pouvoir d'État de la bourgeoisie serait détruit dans les faits avant de l'être politiquement. Je crois qu'aujourd'hui, si je n'ai plus employé le terme de classe ouvrière, c'est que celle-ci n'a pas la même constitution qu'elle avait à l'époque de l'industrie taylorienne. Nous savons quelle est la population qui est assujettie à une domination par le pouvoir central et le pouvoir technocratique, mais nous ne savons plus au juste quelle est la position des techniciens, des informaticiens, des salariés, des PTT, des banques, etc., etc., dans le processus de production. C'est pourquoi Touraine, par exemple, ne parle plus que de population. Il désigne par population ce que d'autres appellent les masses, ou qu'en Italie on appelle le prolétariat, au sens le plus extensif. C'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie de l'appareil de domination, qu'il soit étatique ou institutionnel. Nous voyons bien aujourd'hui que la radicalisation la plus manifeste et la plus agissante émane souvent, non plus d'une avant-garde de la classe ouvrière, mais de ceux qu'on veut nous présenter comme des classes moyennes et qui sont en réalité des travailleurs prolétarisés dont l'appartenance de classe n'est pas claire. Et moi, je trouve ce fait positif que l'appartenance de classe ne soit pas claire, parce que je ne vois pas comment une société sans classe naîtrait s'il n'y a pas dissolution des classes avant même sa naissance.
Voilà, André Gorce, en 1979, j'écoute cet extrait, Christophe Fourel, et je pense à des scènes que j'ai vues à Madrid, avec les indignés dans leur débat, et on a assisté à un débat qui était « réforme ou révolution ». Alors, des gens qui disaient « ah mais non, la révolution c'est trop radical, c'est violent, il faut aller vers la réforme, et puis petit à petit, et puis par la base, et l'autoritarisme ». Enfin, toutes ces questions dont on débat depuis déjà fort longtemps étaient à nouveau débattues. Et là, ce que vous me dites, c'est que ce dont parle Gorce là, c'est en référence à un de ses ouvrages qui s'appelle « Réforme et révolution », et qui est de 1969, donc c'était des débats 68 ans.
Oui, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on sent bien que André Gorce, dans cet extrait, fait référence à effectivement des réflexions qu'il a déjà écrites dans ce livre « Réforme et révolution ». Et puis en même temps, il est sur le point, à ce moment-là, en 1980, il fera paraître « Adieu au prolétariat », qui est un ouvrage qui fera beaucoup de débats. Donc, c'est un an, juste un an avant la parution de « Adieu au prolétariat », où André Gorce rentre un petit peu en porte-à-faux avec la gauche de l'époque et le syndicalisme en particulier, parce que dans ce livre, il bat en brèche un petit peu la religion du prolétariat, qui était portée par certains mouvements à gauche à l'époque. Et puis surtout, il avait dans ce livre mis en évidence la naissance de ce que lui appelait encore peut-être un peu maladroitement la non-classe des non-travailleurs, mais d'une certaine manière qui font écho avec Los Indignados, parce que ce sont la non-classe des non-travailleurs, ce sont tous ces gens qui ne peuvent pas se retrouver dans le travail qu'on leur donne à faire et qui ne peuvent pas se reconnaître à travers le travail qu'on leur propose de faire ou de ne pas avoir d'ailleurs, parce que d'une certaine manière, c'est une frustration absolument colossale que finalement de voir ces jeunes qui, pour la grande majorité d'entre eux, sont très diplômés, ont acquis une éducation et le système éducatif leur a permis d'acquérir des connaissances et, comment dirais-je, des diplômes, et se retrouver dans une situation où finalement, eh bien, ils sont complètement en porte-à-faux par rapport à ce que aujourd'hui le marché du travail peut leur offrir. Et je crois que le mouvement est intéressant à regarder de près, et vous le faites, parce qu'elle interroge notre société sur sa capacité aujourd'hui à se poser des questions sur elle-même. On parlait tout à l'heure du temps libéré et que faire du temps libéré. On est pris dans un tel étau aujourd'hui qu'on n'est même pas capable. Ouais, ouais. C'est quand même ahurissant de penser qu'on a les possibilités d'avoir du temps libre beaucoup plus. Et malheureusement, ça devient un problème.
Partout en Espagne, sur les places, on voit ces occupations. Et des milliers de textes auront été écrits, des milliers de slogans, de pancartes, de tout petits textes ou de textes plus importants. Mais il y en a un avec lequel je veux finir là, cet entretien sur André Gorce, et en écoutant André Gorce, c'est celui-ci, c'était sur la Puerta del Sol, un panneau écrit sur un morceau de carton qui disait « Nous ne sommes pas le problème, nous sommes la solution ».
Je crois personnellement que dans tout ce qui se passe au niveau technologique, économique, s'annonce la montée d'une crise qui fait que ou bien tout sombrera dans la barbarie complète, où tout changera totalement, dans un sens positif, et qu'il n'y a pas beaucoup de milieu entre les deux. Ou bien nous deviendrons un monde qui ressemble à ce qu'est actuellement l'Afrique avec des bandes armées qui s'entretuent. Un moment à la Mad Max, des bandes armées qui s'entretuent pour pas grand-chose, pour se partager des richesses que personne ne produit plus, pour piller, etc., etc. Ça, c'est une chose qui, même autour de nous, s'indique, et bien sûr, s'indique beaucoup plus fortement dans le Sud. Donc nous pouvons dériver vers ça. Mais aussi, nous pouvons dériver vers ce qui se construit dans les marges. Par exemple, au Brésil, qui sont un nouveau type de coopérative de mise en commun de tout ce qui est produit et de refus de monétariser les productions, de les commercialiser. Le néolibéralisme en tant qu'idéologie dominante a du plomb dans l'aile, et même l'économie marchande. L'idée de gratuité fait son chemin, même de façon parfois inattendue, chez des gens inattendus. Vous avez Patrick Vivret qui développe un discours que je considère anti-économique, c'est-à-dire qui demande l'introduction d'une économie complètement différente de celle qui règne pour tenir compte de ce qui n'est pas comptabilisable, calculable, ni expressible en prix et en argent, et qui est la richesse première et la richesse fondamentale. De tout ce qui est humain n'est pas traductible en argent, ni tout ce qui est relève des cycles naturels. Et de mon point de vue, ce passage pourra avoir lieu quand ce système économique s'effondrera. Et je crois fermement à son effondrement. Parce que tous les indices de sa venue sont là. Vers quoi nous allons? C'est-à-dire vers une production où il n'y a presque plus de travail. Et quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus de salaire. Donc il faut trouver autre chose. Je crois qu'il y a d'espoir, mais il y a beaucoup de risques. Parce que si l'effondrement se fait trop tôt, sans qu'un certain nombre d'évidences et d'expérimentations à grande échelle aient eu lieu, on va simplement vers la barbarie.
Voilà, André Gorce en 2006. On va se quitter sur ce dernier extrait, Christophe Fourel. Gorce, dans ce passage, vient d'évoquer Patrick Vivret. C'est un des auteurs qui figure dans le bouquin que vous avez dirigé, André Gorce, un penseur pour le 21e siècle. C'est à la Découverte, ça a déjà 2-3 ans, c'est ça ?
C'est paru en 2009.
Qu'est-ce que vous conseillez pour ceux qui veulent rentrer dans la pensée d'André Gorce ?
Oh, je pense que spontanément, pour le public non averti, j'aurais tendance à lui conseiller de lire Lettre AD. J'aurais également ensuite tendance à conseiller l'ouvrage posthume qui est paru en 2008, qui est un recueil et qui s'appelle Ecologica, qui est un recueil de textes d'André Gorce et qui montre à quel point sa pensée est tout à fait actuelle. L'extrait qu'on vient d'entendre, je trouve, est de ce point de vue-là extrêmement éloquent. On voit bien à quel point, pour André Gorce, la crise écologique, la crise financière, la crise sociale et du travail ne sont pas dissociables. On ne peut pas les hiérarchiser et que c'est toutes ces crises auxquelles nous avons aujourd'hui à faire face. Ce qui se passe en Grèce, qui sont les répercussions de la crise financière, où on se trouve avec un État qui est au bord de la faillite, d'une certaine manière, et de ce point de vue-là, éloquent. Et enfin, l'actualité aussi est porteuse, parce que l'Allemagne vient de faire le choix de sortir du nucléaire, qui est un choix qui interroge beaucoup. Et je crois que tout ça rentre en résonance avec, effectivement, la pensée d'André Gorce, qui est une pensée extrêmement riche.
Merci à toutes et à tous. Merci à Catherine Louis de l'INA et à nos amis de France Culture pour cette série d'émissions de 1991 à Voix Nue. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter et toutes les précisions à la rubrique émissions. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site là-bas.org. Et puis, il y a aussi la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Stéphane Poitvin, c'est Lucia Kuhn et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission préparée par Franck Adhérer. Marion Dupas, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base que j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Écoutons un sociétaire de la Maïf nous parler de l'assurance d'essai RassureCap Solutions.
Remarié à 40 ans, un nouveau papa à 46 ans, c'était pas prévu. Alors j'ai voulu que toute la famille soit à l'abri. Du coup, à la naissance de Paul, j'ai augmenté le capital de mon assurance d'essai.
Avec le contrat RassureCap Solutions, vous pouvez augmenter votre capital de 5 000 euros en cas d'événement familial comme une naissance, jusqu'à 4 fois pendant la durée du contrat, et ce, sans nouvelle formalité médicale. Maïf, assureur militant. Le contrat RassureCap Solutions est conçu et géré par Parnasse Maïf, filiale assurance vie de la Maïf.
La Banque Postale a quelque chose à vous dire concernant le crédit à la consommation.
Aujourd'hui, vous remboursez peut-être plusieurs crédits. Un pour la voiture, un autre pour des travaux, un troisième pour une cuisine par exemple. Et souvent, ces crédits ont des durées, des mensualités et des taux différents. Mais finalement, savez-vous combien vous coûtent tous vos crédits ? Avec le rachat de crédit de la Banque Postale, vous regroupez vos crédits en un seul, avec un seul taux attractif et une seule mensualité plus adaptée à votre situation financière. Alors demandez vite une simulation à votre conseiller. Et jusqu'au 29 décembre, la Banque Postale vous fait profiter d'une offre spéciale. Renseignez-vous dans votre bureau de poste ou appelez le 36 39, 15 centimes d'euros TTC la minute.
Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit exclusive du prêteur.
Hé, hey, man, France O, c'est trop bien. Il y a Ty Chris dans Riding Zone. J'ai vu Célasou dans le ring et une pure battle dans Dance Street.
Moi, ce que j'adore sur France O, c'est au féminin. Et je me sens branchée grâce à Tendance O.
France O, la seule chaîne de la TNT qui mixe.
Cultures urbaines.
Live.
Séries.
Aventures.
Info.
France O, la chaîne métisse.
France Inter, partenaire de l'exposition Wemin Jun, l'ombre du fou rire, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris, jusqu'au 17 mars. Près de 40 tableaux, autoportraits figés dans un rire énigmatique et de nombreux dessins inédits. Wemin Jun est le chef de file d'une génération d'artistes fortement marqués par l'histoire de la Chine contemporaine. Retrouvez Wemin Jun, l'ombre du fou rire, première grande exposition unique en Europe, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Il est 16h20 sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base où j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Les résultats de l'élection pour la présidence de l'UMP sont définitifs. La commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales de l'UMP ne peut plus revenir sur les résultats. La réponse cet après-midi à François Fillon. Ses proches affirment que dans le comptage des voix, celles de Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie n'ont pas été comptabilisées. Plus de 1300 voix au total qui donneraient la victoire au final à François Fillon. « Je n'utiliserai pas la voie juridique pour trancher les litiges », a déclaré l'ancien Premier ministre, « mais je réclame la vérité ». François Fillon qui demande maintenant à Alain Juppé, le président fondateur de l'UMP, d'assurer de façon transitoire la présidence du mouvement. Il faut mettre un terme au psychodrame, assure aujourd'hui Bruno Le Maire. Un président a été proclamé. Je souhaite que notre famille se rassemble derrière lui pour la COCO-E. La seule possibilité maintenant, c'est de saisir la commission des recours. Jean-François Copré met les proches de François Fillon au défi. Ça permettra, dit-il, de regarder aussi de plus près les résultats de Nice. Opération déminage aussi à l'Élysée. François Hollande a tenté de remettre les choses au clair cet après-midi après ses déclarations hier sur la liberté de conscience des maires face au mariage homosexuel. La loi, dit-il, s'appliquera partout dans toutes les communes de France. Une délégation de l'inter-LGBT s'est dite scandalisée par la déclaration d'hier du chef de l'État. Elle doit être reçue d'ici quelques minutes à l'Élysée. Le gouvernement a reçu deux offres pour le site d'ArcelorMittal de Florange en Moselle, mais selon Arnaud Montebourg, qui l'affirme cet après-midi, ces offres sont sur un périmètre plus vaste que celui défini par le groupe. Le géant de l'acier ne souhaite se séparer que d'une partie des installations. Le moment venu, dit le ministre du redressement productif, le moment est venu de demander à ArcelorMittal de faire bouger sa position. Tous au chevet du conflit au Proche-Orient, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a rejoint cet après-midi Hillary Clinton au Caire pour y rencontrer le président égyptien Mohamed Morsi. Pour l'instant, pas de trêve en vue, mais les raids israéliens, eux, se sont poursuivis après l'attentat commis dans un bus ce matin de Tel Aviv. Un enfant a été tué par une frappe sur l'immeuble où se trouve l'agence France-Presse à Gaza. Retour en France, les héritiers de Louis Renault perdent à nouveau leur combat pour demander réparation dans la nationalisation-sanction de la firme en 1945. La Cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour juger leur requête. Elle confirme ainsi la décision prononcée en première instance. Les avocats des petits-enfants de l'industriel devraient se pourvoir en cassation. Louis Renault avait été accusé à la Libération de collaboration avec l'Allemagne nazie. Ses petits-enfants ont tenté de le présenter comme une victime. Le réchauffement climatique a fait battre des records de chaleur en Europe ces 10 dernières années. Selon Bruxelles aujourd'hui, il risque d'aggraver les inégalités au sein du continent. Les pays du Sud devraient voir leur consommation d'énergie augmenter face aux canicules, tandis qu'à l'Ouest et dans le Nord de l'Europe, il va falloir s'habituer à une chaleur inhabituelle. Enfin, faute d'argent, la Grèce ne participera pas demain au championnat d'Europe de natation à Chartres. Elle sera en revanche à Istanbul le mois prochain pour participer aux Mondiaux. Vous écoutez France Inter, 16h03, tout de suite, sans pub, on y va, Frédéric.
Ah, direct, direct, comme ça.
Allez, à fond.
Merci Laetitia Gaillet. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, les nouvelles ne sont pas toujours très rigolotes, mais enfin, on peut quand même espérer et puis avoir du plaisir en voyant des jeunes artistes vraiment talentueux, récompensés. Ben, c'est le cas du quatuor Hermès qui vient de remporter le premier prix au Young Concert Artist à New York après le premier prix au concours de Genève l'année dernière. Ben bravo, mesdames et messieurs, il y a deux garçons et deux filles et on va les entendre tout de suite dans un extrait du 12e quatuor de Ludwig van Beethoven, Maestoso. Alors majestueux, mais il a ajouté Allegro tendre, teneramente, donc c'est un Beethoven beaucoup plus complexe que d'ordinaire, très atypique, avec des méandres psychologiques touchants et inhabituels. Il est parfois bougon, ça c'est assez naturel chez lui, mais cette tendresse, eh bien, on l'entend moins souvent que ses coups de colère, ses accents, ses sforzandi. Ben, voici un peu de ce premier mouvement du 12e quatuor. Thank you. Le maestoso, majestueux, mais en fait c'est plutôt large, évidemment un terme écrit peut avoir plusieurs significations. Donc c'est le premier mouvement du 12e quatuor de Beethoven qu'on a entendu par le quatuor Hermès, et ils vont jouer dans le cadre des week-ends de Radio France. Celui qui arrive s'appelle le Beethoven intemporel, et ces jeunes artistes seront dans le cadre des jeunes solistes à 16h au studio Sacha Guitry, donc il faut entrer par la porte B, la maison de Radio France, 16h avec un programme Dietersdorf, auteur autrichien à découvrir. Bukhorechtiev, un compositeur qui a beaucoup apprécié Beethoven, mais beaucoup plus tard, au XXe siècle, et puis Beethoven lui-même, le fameux quatuor dit sérieux, le 11e. Donc le quatuor Hermès, c'est dimanche à 16h, prix des places, je dis que ça peut compter quand même, 5€, tarif réduit 3, toute la journée du samedi 12, et gratuit pour les moins de 13 ans, c'est un beau...